La Torah consacre 34 versets seulement à la création du monde et pas moins de 5 parashiot à l'édification, à la construction du Mishkan, un sanctuaire provisoire, démontable et appelé à disparaître. D'un point de vue logique, c'est totalement disproportionné. D'un point de vue conceptuel, c'est intentionnel. Et c'est à cette lecture que nous invite le Rav Sacks, qui parle de scandale textuel. Pourquoi tant de détails pour un objet transitoire, alors que la création du monde est expédiée en quelques versets? Pourquoi cette histoire figure-t-elle dans le livre de l'Exode, qui raconte la naissance d'un peuple, et non dans le Lévitique, qui est consacré au culte? La réponse proposée par le Rav Jonathan Sacks est que le Mishkan n'est pas d'abord une structure religieuse. Il est un mécanisme de transformation morale et politique. À la sortie d'Égypte, les Hébreux ne sont pas encore une nation au sens fort. Ils partagent certes un passé commun, ils partagent certes un ennemi commun et un traumatisme commun, mais ils ne partagent pas encore une responsabilité commune. Ils ont quitté l'esclavage, juridiquement parlant, mais pas intérieurement. Leur comportement, tout au long du livre de Shemot, le montre. À chaque difficulté, ils se plaignent. À chaque silence, ils paniquent. À chaque absence de Moshe, ils régressent. Chaque contretemps, ils se plaignirent. Ils se plaignirent lorsque la première intervention de Moshe échoua. Que l'Éternel vous regarde et vous juge, vous qui nous avez mis en mauvaise odeur auprès de Pharaon et de ses serviteurs, vous qui avez mis le glaive dans leurs mains pour nous faire périr. Au moment de l'ouverture de la mer des joncs, ils se plaignirent à nouveau. Ils dirent à Moshe, est-ce faute de trouver des tombes en Égypte que tu nous as conduits à mourir dans le désert? Quel bien nous as-tu fait en nous tirant de l'Égypte? N'est-ce pas ainsi que nous te parlions en Égypte en disant, laisse-nous servir les Égyptiens? De fait, mieux valait pour nous être esclaves des Égyptiens que de périr dans le désert. Après l'ouverture de la mer des joncs, la Torah dit, Israël reconnut alors la haute puissance que le Seigneur Tout-Puissant avait déployée sur l'Égypte et le peuple révéra le Seigneur, et ils eurent foi en l'Éternel et en Moshe, son serviteur. Mais après 3 jours seulement cette reconnaissance de la main de Dieu dans leur sauvetage, ils se plaignirent à nouveau. Il n'y avait pas d'eau, et quand il y eut de l'eau, elle était amère. Puis il n'y avait pas de nourriture. Les enfants d'Israël leur dirent que ne sommes-nous pas morts de la main du Seigneur dans le pays d'Égypte, assis près des marmites de viande et nous rassasions de pain, tandis que vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple. Et Moshe dit alors, que ferai-je pour ce peuple? Peu s'en faut pour qu'il me lapide. Ainsi, jusqu'à présent, Dieu a accompli des signes, des prodiges pour le peuple entier. Il l'a fait sortir d'Égypte, il a ouvert la mer pour eux, il leur a donné de l'eau à partir d'un rocher et la manne à partir du ciel. Et malgré tout, ils n'arrivent pas à se constituer en tant que nation. Ils restent un groupe d'individus incapables ou ne voulant pas prendre la responsabilité d'agir collectivement. Leur première réponse est toujours de se plaindre. Après toute cette litanie de plaintes, Dieu va accomplir le plus grand acte de l'histoire. Il va apparaître dans une révélation au Mont Sinaï, la première fois dans l'histoire où Dieu apparaît à un peuple dans son entièreté et le peuple tremble. Il n'y a jamais eu d'événement de ce genre auparavant dans toute l'humanité et il n'y en aura plus jamais. Mais combien de temps ce saisissement dure-t-il? Quelques 40 jours seulement, puisque le peuple va ériger un veau d'or. Si des miracles, l'ouverture de la mer des joncs et la révélation au Mont Sinaï, le don de la Torah, ne parviennent pas à transformer les Bnei Israël, qu'est-ce qui pourrait les transformer? Il n'y a pas de plus grand miracle que cela. C'est là que Dieu va faire une chose tout à fait inattendue. Il va dire à Moshe, parle au peuple et dis-lui de contribuer, de donner la terouma, la contribution, de donner quelque chose qui lui appartient, que ce soit de l'or, de l'argent, du bronze, de la laine ou de la peau animale, de l'huile ou de l'encens, de ses compétences ou de son temps, et fait en sorte que le peuple construise quelque chose ensemble, un foyer symbolique pour ma présence, un tabernacle. Cela n'a pas besoin d'être massif, grand ou durable, fait juste en sorte qu'il fasse quelque chose, qu'il devienne des bâtisseurs, fait en sorte qu'il donne. C'est la raison pour laquelle Dieu va dire à Moshe, et ils me construiront un sanctuaire, Veshachan Tibetocham, et je résiderai parmi eux. Le verbe Shachen n'a jamais été utilisé à présent pour désigner une connexion avec Dieu. Il est finalement devenu un mot-clé du judaïsme lui-même. Le mot Mishkan provient de lui, qui signifie sanctuaire. Le mot Shrina, la présence divine, vient aussi de cette racine. L'idée de proximité est donc absolument centrale. D'ailleurs, Shachen, en hébreu moderne, signifie voisin, la personne qui habite à côté. Les Bnei Israël avaient donc besoin d'une manière de se sentir aussi proche de Dieu que de leurs voisins. Et Dieu leur a offert cette proximité. C'est exactement d'ailleurs ce dont les patriarches et les matriarches bénéficiaient. Dieu a parlé à Avraham, Yitzhak, Jacob, à Sarah, Rebecca, Rachel et Léa, de manière intime, comme à un ami. Il a dit à Avraham qu'ils auraient un enfant, il a expliqué à Rebecca pourquoi elle souffrait des douleurs aiguës durant sa grossesse. Il est apparu à Jacob lors des moments capitaux de sa vie, lui disant de ne pas avoir peur. Et ce n'est pas ce que les Bnei Israël ont vécu jusqu'à maintenant. Ils ont vu certes Dieu frapper un empire tel que l'Égypte, ils ont vu les plaies s'abattre sur l'Égypte, ils l'ont vu séparer la mer des joncs, ils ont vu Dieu faire descendre la manne du ciel, jaillir l'eau d'une roche et leur donner la Torah. Ils ont entendu sa voix et ils ont dit à Moshé que ce soit toi qui nous parles et nous pourrons entendre, mais que Dieu ne nous parle point, nous pourrions mourir. Dieu leur était donc apparu avec sa présence submergente, telle une force irrésistible, une lumière si lumineuse que l'observait aveuglé, une voix si puissante qu'elle rendait sourd. Ainsi, l'accès à Dieu représente un défi, pas simplement pour les matriarches, les patriarches, les grands prophètes tels que Moshe Rabbeinu, mais également pour chaque membre d'une grande nation et même pour Dieu lui-même qui, jusqu'à la Parashat Terouma, d'une certaine manière, nous dit le Rav Sacks, n'avait pas trouvé la clé pour faire adhérer les Bnei Israël à son projet. L'aspect le plus complexe n'a en réalité rien à voir avec Dieu, nous dit le Rav Sacks, et tout à voir avec nous. Comment parvenons-nous à ressentir la présence divine ? Ce n'est pas tellement difficile lorsqu'on se tient par exemple devant le mont Everest ou face au Grand Canyon. On n'a pas besoin d'être religieux ou pas pour être émerveillé en présence du sublime. Le Rav Sacks va convoquer le psychologue Avraham Maslow qui parle d'expérience paroxystique et qu'il percevait comme étant l'essence de l'expérience spirituelle. Mais comment ressentons-nous la présence divine au beau milieu de notre vie quotidienne ? Non pas depuis le sommet du Sinaï, mais des plaintes qui se trouvent en dessous. Non pas lorsqu'il est entouré de tonnerres, d'éclairs, tel que ce fut le cas au moment de la révélation, mais un jour parmi tant d'autres. C'est le secret transformateur de la paracha, du mot terouma, qui signifie offrande, contribution, comme nous l'avons dit. Dieu dit à Moshé, invite les enfants d'Israël à me préparer une offrande de la part de quiconque y sera porté par son cœur et vous recevrez mon offrande. Ce qui veut dire, d'une certaine manière, que Dieu arrive à la conclusion que les miracles n'ont rien changé de manière durable dans le cœur des Bnei Israël. La mer rouge ouverte suscite un instant de foi, un chant, la Shirat Hayam, immédiatement suivi de nouvelles plaintes. La révélation du Sinaï, événement sans précédent, ne tient que 40 jours avant la faute du veau d'or. Autrement dit, même l'expérience religieuse la plus extraordinaire, la plus intense, ne suffit pas à produire une société responsable. C'est à ce moment précis que Dieu donc va changer de méthode. Il va cesser d'agir à la place du peuple et va lui demander d'agir pour lui-même. Ce que Dieu demande n'est ni héroïque ni spectaculaire. Il demande des dons, des matériaux, du temps, des compétences. Chacun contribue volontairement à une œuvre commune. Et c'est là que se produit le basculement. Pendant toute la construction du Mishkan, la Torah ne rapporte aucune plainte, aucune révolte. Et le Rav Sacks en tire une thèse centrale. Un peuple ne devient libre qu'au moment où il cesse d'être uniquement bénéficiaire pour devenir acteur. La liberté ne se reçoit pas, elle se construit. C'est la raison pour laquelle le récit du Mishkan est long et c'est la raison pour laquelle il appartient au livre de l'Exode parce qu'il est constitutif de l'identité de la construction du peuple. Il marque la véritable naissance d'Israël comme une société. Le Rav Sacks explique que la culture grecque classique est structurée autour de la tragédie. La faute y est souvent involontaire, inscrite dans le destin, et elle appelle la honte ou une forme de fatalité. Il cite souvent Œdipe, qui est coupable sans l'avoir voulu, et la seule issue possible, c'est la chute. La culpabilité grecque, elle est paralysante, tournée vers le passé, sans véritable possibilité de réparation ou de transformation. La Torah propose une vision radicalement différente. La faute n'y est jamais une fatalité, elle est un écart, une erreur qui appelle une responsabilité et une action corrective. La culpabilité biblique n'est pas tragique, elle est productive. Elle ne vise pas à écraser l'individu, mais à le remettre en mouvement. C'est exactement ce qui se passe après le veau d'or. Dieu ne va pas détruire le peuple. Il ne se contente pas non plus de lui pardonner abstraitement. Il va donner au peuple un moyen de réparer en construisant. Le Mishkan devient ici la réponse concrète à la faute. Non pas une punition, mais une réorientation de l'énergie collective vers un projet commun. Dans cette perspective, Terouma, le don prend tout son sens. Donner, ce n'est pas seulement offrir quelque chose, c'est reconnaître que ce que nous possédons ne nous appartient pas absolument. Rav Sacks insiste sur ce point. On n'a pas besoin de prouver intellectuellement l'existence de Dieu pour vivre une vie spirituelle. Il suffit de vivre dans la gratitude, qui est l'expérience la plus intime et la plus paroxystique du lien à Dieu. La gratitude conduit au don, et c'est le don qui crée la présence de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas la foi qui engendre la responsabilité, c'est le sens de la responsabilité qui va engendrer la foi. La conclusion de Rav Sacks est comme d'habitude profondément contre-intuitive. Ce n'est pas ce que Dieu fait pour l'homme qui fonde une société libre, mais ce que les hommes font ensemble en réponse. Une société libre n'est pas une société de miracles permanents, mais une société de bâtisseurs responsables. Le Mishkan a disparu, mais le principe demeure. Là où des individus acceptent de donner, de construire, d'assumer ensemble l'avenir, c'est là, selon la Torah, où la présence peut résider au milieu d'eux. Shabbat Shalom.